Moi, au début, j'ai commencé par la livraison, ben, comme vous voyez, Deliveroo. Je dis qu'il y a beaucoup de travail avec ces applications. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui a envie de travailler, ces sociétés-là vous donnent votre chance d'aller travailler. Et là, j'ai aucune contrainte avec moi. Je me lève le matin, si j'ai envie de me connecter, je me connecte. Si j'ai pas envie, ben, je me connecte pas.
Christophe est un travailleur multitâche et multicasquette. Il a été livreur chez Deliveroo et chez son concurrent Uber Eats. Il est aujourd'hui juicer, chargeur de trottinettes électriques, en bon français.
Mais viens, on va au Champ de Mars, là. Il y en a plein d'un coup. Il y en a trois.
On y va.
Christophe a adopté le statut d'auto-entrepreneur. C'est la règle si l'on veut travailler pour ces plateformes numériques. Travailler pour ces plateformes a des avantages, notamment une grande souplesse dans l'organisation de son temps de travail. Mais il y a aussi de gros désavantages. Pas d'assurance chômage, pas de congés payés, frais médicaux très peu couverts en cas d'accident du travail. Or, certaines tâches, comme livrer un repas à vélo, peuvent être hautement accidentogènes.
Un certain nombre de travailleurs de ces plateformes-là, aujourd'hui, sont un petit peu dans la même condition que les prolétaires de la fin du 19e et que les travailleurs à la tâche, c'est-à-dire en attente d'un travail à la journée, dans des conditions de précarité qui dépassent l'entendement.
Certains députés et sénateurs aimeraient faire évoluer la loi pour protéger davantage ces nouveaux travailleurs. Mais ils se heurtent au lobbying des plateformes et aussi, il faut bien le dire, aux attentes d'une société désormais habituée à se faire livrer n'importe quel produit en un clic. Ce qui nous renvoie à notre propre responsabilité de consommateur.
Le vrai enjeu, c'est de recréer des mécanismes de sécurité. Et dans ce domaine-là, il est plus que temps d'accélérer les choses.
Il y aurait en France, selon l'Institut Montaigne, 200 000 personnes travaillant pour les plateformes numériques, soit 0,8% des actifs occupés. Cela reste une forme d'emploi très minoritaire par rapport au salariat, qui est la norme en France, mais ce nouveau type de travail interroge sur l'évolution de notre société. Les nouveaux boulots 2.0, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux.
France Inter, Interception. Magazine de la rédaction.
21h, un dimanche soir à Paris. Nous sommes avec Christophe et Wissam et on va les suivre pour ramasser des trottinettes électriques en libre service, les recharger. Là, on rentre dans la camionnette et ensuite les redéposer demain matin à l'aube. Et c'est parti.
Apporte ça tour, enfin.
Alors, chacun a son portable sous les yeux parce que chacun travaille avec une application.
Voilà, ouais.
C'est quoi une bonne journée? C'est combien de trottinettes?
Une bonne journée, c'est 100 trottinettes, 50 lui, 50 moi. Ça nous fait déjà 250€ par jour, tous les jours, quand on travaille vraiment d'arrache-pied.
C'est combien de temps d'arrache-pied? Ah, elles sont là, on va s'arrêter.
18h.
18h par jour.
Ouais, 18h par jour.
Donc là, vous jonglez, vous, avec les deux mobiles. Wissam est au volant. Voilà. Vous mutualisez la camionnette dans laquelle nous sommes et vous êtes partenaire.
Lui, il s'occupe surtout de la conduite, qui est plus essentiel. Moi, je m'occupe du ramassage. Et tous les deux, on fait le même déposage. Après, le travail, il est cumulé à deux. Tu le mettras sur la droite, Wissam. Je vais ramasser celle-là, là.
Je vais descendre avec vous, Christophe. Si je suis aussi rapide que vous, ce qui reste à prouver...
Là, j'ai la bip.
Elle est déverrouillée, elle est à vous.
Je vais dans le camion.
Allez, c'est reparti.
Murat, tu m'as dit, hein?
Ouais. Pas longtemps, hein.
Mets ton téléphone
à l'aise. Là, mets-toi ici à droite, là. Je vais aller la chercher à pied, vite fait, rapidement.
Là-bas?
Ouais.
Allez, fonce. J'avoue, ce métier-là, c'est pas facile quand on a des enfants à la maison, etc. C'est vraiment très très dur.
La nuit, le petit matin?
Ouais, bah je les vois plus. Là, ça fait 2 semaines que je fais ça, 2 semaines que je vois plus mes enfants. Si je les vois, c'est vraiment 15-20 minutes dans la journée, et voilà quoi. C'est dur. Mais après, on n'a pas trop le choix, hein. C'est un sacrifice qu'on fait. Et j'espère que ça aboutira à quelque chose quoi.
C'est beaucoup de travail, hein. Tout à l'heure, Christophe disait 18 heures par jour.
Moi, je sors chez moi à midi. Pour finir, j'arrive chez moi à 7h du matin, 7h30 quoi. Ouais. quand vous comptez, en fait, vous travaillez 10 euros de l'heure.
10 euros de l'heure, c'est à peu près le SMIC horaire.
Ouais. Ouais, mais là, t'es en train de me faire un tour. 2 secondes, je récupère 2 trottinettes et je reviens.
Donc ça, c'était Christophe pour qu'on aille le récupérer. Il était dans son coin en train d'en ramasser à pied. C'est une sacrée logistique, hein.
Ouais. Faut être actif, réactif. Le plus dur, c'est de respecter le code de la route avec ce métier aussi.
C'est ce que je vois.
Parce que franchement, parfois, comme vous voyez, on peut pas réserver la trottinette. Il y a des fois, on va arriver, on va être 4 camions en fait sur la même trottinette. Et parfois, ça part carrément à la bagarre.
On est en train de chercher dans le Champ de Mars la trottinette réservée par notre binôme. On la trouve pas.
C'est vraiment la chasse au trésor. Au pire, je vais prendre une bird là-bas, je vais la prendre au pire. Je crois qu'on va pas aller moins vite.
Bird et Lime sont les sociétés qui dominent le marché parisien.
18 000 pas, ça représente combien à peu près? 15 km? On fait 15 km à pied par jour, à peu près. Il y a de quoi maigrir. J'espère qu'on n'est pas venu jusqu'à la pointe. Ça doit être juste à l'intersection. Ils l'ont pris. Tout ça pour rien. C'est démotivant ça. Et même celle que j'ai réservée, elle n'y était pas.
Réserver la trottinette se fait par l'application et son interface réservée au ramasseur. Alors, c'est le moment du déchargement. Il y a à peu près une vingtaine de trottinettes récoltées en une petite heure de ramassage.
Celles-là, elles sont lourdes. Je pense que celle-là doit peser entre 30 kg. Celle-là, elle pèse 28 kg.
Et maintenant, il faut aller dans le local que Wissam et Christophe louent pour aller les recharger. Et il y a déjà de précédentes trottinettes ramassées lors d'un premier voyage.
Chez lui aussi. Oh, c'est un peu le bazar parce qu'on vient de prendre le local. On attend de faire un petit peu des travaux, après on va s'organiser un peu mieux pour mettre les chargeurs. Mais en attendant, on fait comme ça, quoi.
Dans ce métier qui est parfois décrié, on parle beaucoup du statut d'auto-entrepreneur, puisque vous êtes obligé d'avoir ce statut pour faire ce genre de métier. Mmh. Statut décrié parce qu'il n'y a pas de cotisation chômage, les cotisations retraite sont extrêmement maigres, il n'y a pas de congé payé, donc si vous demain vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé.
Oui, vous avez tout compris.
Ce statut, vous en pensez quoi?
En fait, je n'ai pas le choix. J'aime bien le travail et quand j'ai vu ces opportunités-là, bah, honnêtement, j'ai foncé. Moi, au début, j'ai commencé par la livraison, bah, comme vous voyez, Deliveroo. C'est eux qui m'ont poussé un peu là-dedans.
Livraison de repas à domicile.
Ouais, de repas à domicile, et ce qui m'a poussé dedans. Et après, je suis resté un petit peu dans Deliveroo. Même, je fais encore Uber. Comme j'ai plusieurs applications, c'est ça qui est génial. Quoi. Maintenant, avec tout, je dis qu'il y a beaucoup de travail avec ces applications. C'est-à-dire, si vraiment vous êtes quelqu'un qui a envie de travailler, eh ben honnêtement, ces sociétés-là vous donnent votre chance d'aller travailler et de gagner votre argent, même à payer des taxes, malheureusement. De toute façon, si je vais travailler chez un patron, honnêtement, je vais gagner le SMIC. Et en plus, je vais pas faire ce que je veux quand je veux. Que là, j'ai aucune contrainte avec moi. Je me lève le matin. Si j'ai envie de me connecter, je me connecte. Si j'ai pas envie, eh ben, je me connecte pas.
Vous, ces métiers qu'on va appeler métiers de l'ubérisation, ça a été une opportunité pour vous?
Ah oui, vraiment une très, très grosse opportunité, honnêtement. Avant, j'étais dans la restauration. Et c'est un métier qui est un peu aussi très difficile, honnêtement. Et moi, honnêtement, ça m'a sauvé la vie, cette trottinette.
Je l'ai sauvé la vie financièrement?
Financièrement, même mentalement. J'ai un travail qu'avant, j'étais à droite, à gauche avec ces systèmes de livraison. Que là, honnêtement, avec ces trottinettes, bah, tous les jours, je fais mes trottinettes et tous les jours, j'ai un gain de trottinette.
Christophe, vous êtes un pionnier, on va dire, dans ce métier que vous appelez Limer. Il y en a d'autres qui appellent ça Juicer, du nom de l'anglais Juice, qui veut dire le courant électrique. Est-ce que le métier a évolué? Est-ce qu'autour de vous, vos concurrents ont évolué?
Ah oui, vraiment, vraiment, l'évolution, c'est vraiment senti, parce que avant, il y en avait vraiment très peu. Après, il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'un coup. En fait, ce qui a changé, c'est qu'avant, en 30 minutes, vous avez 100 trottinettes. Et c'était, il n'y avait pas assez de Limer, il n'y avait pas assez de personnel. C'est-à-dire que c'était très très facile à ramasser. Mais petit à petit, il y a eu des petits qui font beaucoup de petits. Ça veut dire que si ça recrute, c'est que ça marche. Quand on a soin d'aller pendant 6 jours entiers, on est rudement content de s'aider d'agrément. Quand on a soin d'aller.
Je m'appelle Karim Amelal, je suis romancier, je dirige une organisation qui s'appelle Civic Fab et je suis l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La révolution de la servitude, pourquoi l'ubérisation est l'ennemi du progrès social.
Vous n'hésitez pas à parler dans votre ouvrage de prolétaire du XXIe siècle. Le mot n'est pas trop fort ?
Quand j'ai commencé ce bouquin, je me suis replongé dans des textes qui ont été écrits à la fin du XIXe siècle et j'étais frappé de voir dans les descriptions qu'ils font du travail à la tâche, les symétries, l'actualité en réalité de cette condition ouvrière-là. Il est absolument stupéfiant de voir aujourd'hui que un certain nombre de travailleurs indépendants, comme on les appelle, de ces plateformes-là, sont un petit peu dans la même condition que les prolétaires de la fin du 19e et que les travailleurs à la tâche, c'est-à-dire que ils sont un peu comme les dockers d'il y a un siècle et demi, en attente d'un travail à la journée, dans des conditions de précarité qui dépassent l'entendement. Et c'est frappant de voir que il s'est passé quand même quelques petites choses entre la fin du 19e siècle et le début du 21e siècle. Il y a ce qu'on appelle le progrès social, des acquis sociaux. Et les travailleurs ubérisés, disons, chauffeurs, livreurs et compagnie, ne bénéficient pas de l'ensemble des acquis sociaux dont bénéficient les autres travailleurs et en particulier, bien sûr, les travailleurs salariés. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, non pas en tant que consommateurs, mais en tant que citoyens.
Est-ce qu'une réglementation, est-ce qu'une régulation est possible ?
Bien sûr qu'une régulation est possible, à au moins trois niveaux. Il y a d'abord une régulation qu'on oublie souvent, mais qui est une régulation locale. Je veux dire, la question des trottinettes, aujourd'hui, c'est une régulation qui doit se faire à l'échelle d'une ville. Ensuite, il y a effectivement une régulation de l'État, c'est-à-dire que l'État doit édicter des règles, l'Assemblée nationale doit voter des lois qui permettent un encadrement de ces nouvelles professions pour précisément qu'elles bénéficient des protections qui s'appliquent à l'ensemble des travailleurs. Et puis, il y a un échelon qui est aussi très important. Il y a beaucoup de débats à ce niveau-là en ce moment et plus généralement, c'est l'échelon européen. Plus la régulation est globale, plus elle pourrait être efficace, ou en tout cas fixer un socle minimum de règles qui pourrait s'appliquer dans tous les pays, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne.
Et pourquoi il y a autant de frilosité alors ?
D'abord parce que on les a pas vus venir pour des questions de génération, parce que très honnêtement ils sont trop vieux, ils ne les utilisent pas, ils savent pas ce que c'est qu'un algorithme, ils savent pas ce que c'est qu'une appli. La deuxième raison, c'est que il y a le mythe en Europe et en France en particulier là encore que ces grandes plateformes, que les start-up de façon automatique sont des créatrices majeures d'emplois et d'opportunités pour tout le monde et de façon automatique ont vocation à rendre la société meilleure. Il y a une sorte de sympathie par rapport au discours de ces plateformes. Les plateformes disent, voilà, on est de l'économie du partage, on est des plateformes vertueuses, on donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Il y a tout un discours qui est très lignifiant, qui est très mythologique de ces plateformes-là, auxquelles, semble-t-il, beaucoup de dirigeants ont un peu adhéré. Il faut peut-être se tourner paradoxalement vers la matrice, le berceau de ces plateformes pour voir le plus de réglementation à ce sujet. C'est les États-Unis. Le pays, sans doute, qui a le plus régulé ces plateformes-là, c'est des grandes villes américaines, New York, San Francisco, Dallas, Chicago. Les réflexions qui sont les plus en pointe sur la question de la régulation, c'est celles qui ont lieu en ce moment, par exemple sur Amazon, au sein du Parti démocrate, chez ces nouveaux démocrates qui ont été récemment élus à la Chambre des représentants. Et c'est assez fascinant de voir que le pays de la régulation, de la réglementation, n'est pas forcément celui qu'on attend.
C'est un métier physique. On profite de cette petite pause dans ce local commercial pour discuter avec vous, Wissam, à nouveau. C'est dur comme travail, on l'a vu, c'est physique.
Parce que sachant que surtout au début, en fait, on se donne vraiment à fond, parce qu'on croit qu'on va tenir, mais à un moment donné, on craque, quoi. Carrément, chez moi, je suis tout le temps sur mes nerfs, à l'extérieur, c'est pareil. Ça joue beaucoup sur le physique, en fait, et sur le mental en même temps.
Vous, votre projet, associé toujours à Christophe, c'est de faire ça quelques temps encore, mettre de l'argent de côté pour ouvrir une affaire, on va dire, plus traditionnelle, toujours dans le transport. En attendant, beaucoup de sacrifices.
C'est ça. On n'a rien sans rien. Quand vous comptez, en fait, exactement votre chiffre d'affaires, ce que vous faites, sachant que vous donnez 22% à l'État, c'est ce qui compte un peu l'URSSAF, ce qui compte un peu tout, quoi. La sécurité sociale, etc. À la fin du mois, qui va aller dans vos poches vraiment, c'est 3 500 euros. Parce que quand vous comptez l'essence, le gasoil, comme je vous ai dit, c'est, vous en avez minimum pour 500 euros. Ça, c'est vraiment le minimum par mois.
3500 euros par mois, les gens vont se dire, c'est somme toute un très bon salaire. C'est 18 heures de travail par jour.
18 heures de travail. Quand vous voulez compter à l'année, en fait, ça revient exactement pareil qu'un travail normal, quoi. Mis à part qu'on a fait beaucoup plus d'heures.
Il est 5 heures du matin, c'est l'heure de prendre une à une toutes ces trottinettes qui sont maintenant chargées à plein avec une batterie à 100% pour aller les redéposer un peu partout dans Paris. Il faut faire ça assez discrètement pour garder de bonnes relations avec le voisinage. Christophe, ouais, vous, quand vous avez commencé, charger une trottinette, c'était 20 euros. Aujourd'hui, c'est 5 en une année. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça continue de descendre?
Oh, c'est sûr que dans les années à venir, c'est sûr que si ça continue, ils vont baisser les tarifs, ça c'est sûr. Hein. On le voit déjà à l'étranger, on le voit déjà même en France, dans les zones qu'ils ont ouvertes en France et tout, ça se voit qu'ils vont baisser. Et je trouve que c'est déjà bien payé, 5 euros par trottinette. Honnêtement, pour le travail qu'on fournit...
Vous trouvez que c'est bien payé?
Ouais, franchement, ouais. J'ai compris en faisant de la quantité qu'on pouvait gagner de l'argent. Quoi. Moi, je vis bien de ça, mes amis aussi vivent de ça, on vit tous de ça. Vraiment pas de problème. Là, bah, passe au Mirabeau, et après du Mirabeau, on ira à l'église d'Auteuil.
Comme Wissam et Christophe, tous les travailleurs des plateformes numériques ont beaucoup moins de droits que les salariés. Le statut d'auto-entrepreneur qu'ils sont obligés d'adopter ne prévoit ni assurance chômage ni congés payés. Leurs cotisations retraite sont très faibles et promettent des pensions au rabais. Beaucoup de ces travailleurs ubérisés sont satisfaits de la liberté que leur offre leur travail. Pour eux, le CDI n'est pas une fin en soi. Mais certains coursiers à vélo ont quand même réussi à faire requalifier leur activité en salariat devant les prud'hommes.
Interception sur France Inter.
Nous retrouvons Vanessa Descoureaux à Paris, au Palais du Luxembourg.
Si les métiers ubérisés ont pu prendre une telle ampleur, une telle place dans notre société, c'est parce qu'ils ont su et surtout parce qu'ils ont pu s'inscrire dans ce qu'on va appeler les zones grises du droit, c'est-à-dire du droit du travail, de la loi tout simplement. Et c'est tout le débat du moment, quel statut, quelle protection pour ces travailleurs. Et c'est précisément le thème d'un colloque qui se tient au Sénat.
On ne doit pas accepter ce monde que l'on nous propose, dans lequel on baisserait en permanence les protections. Un autre monde est possible qui rémunère mieux le travail et qui ne nous appauvrit pas collectivement en créant des inégalités. Je vous remercie.
Je m'appelle Jérôme Pimaud, je suis un ancien livreur et j'essaie maintenant d'être porte-parole de tous les livreurs en lutte parce qu'on s'est aperçu de la précarité du métier. Donc voilà, on a créé le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris. Voilà.
Des rendez-vous comme celui-ci, c'est l'occasion de quoi pour vous ?
C'est l'occasion, encore une fois, de couper l'herbe sous le pied du discours plateformisant, en fait, du discours des plateformes qui voudraient que tout soit beau, tout soit rose. On a encore quelques intervenants aujourd'hui qui sont là pour dire que bon, finalement, les choses sont pas si tristes que ça et que il y a quand même plein de gens qui sont heureux. Oui, il y a plein de gens qui sont heureux, mais il y a plein de gens qui sont malheureux et il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine.
Alors comment fédérer des mouvements de protestation à Paris ou ailleurs, justement, dans un système aussi dur que celui-ci ?
En commençant à comprendre comment fonctionne notre métier, comment fonctionne notre application, puisque c'est l'application qui donne, entre guillemets, le travail. À partir du moment où on passe notre temps sur notre application à être géré dans notre corps, dans notre tête, par cette application, on finit par un petit peu en faire partie. Et donc, sachant comment elle travaille, on sait comment la bloquer.
Alors, on la bloque comment? On se déconnecte?
On la bloque en fin de compte en refusant les commandes. C'est-à-dire que les commandes arrivent sur le téléphone d'un livreur et lui, il va la refuser. Et il va la refuser avec une quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine de camarades qui sont là aussi à côté de lui, face au plus gros restaurant, par exemple, de la ville, que souvent c'est des McDonald's. Et donc voilà, l'application envoie des commandes qui sont systématiquement refusées, ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'application de toute la ville bug. Donc les clients n'ont plus accès au restaurant. Et là, on a l'application qui appelle les livreurs pour dire qu'est-ce qui se passe. Souvent, un leader a été identifié parce qu'il a besoin de communication pour monter le mouvement. Et donc, à partir de là, voilà, des négociations, des entre guillemets, s'insinuent avec ce leader. C'est pour ça que quelque part, on n'a pas vraiment besoin de la loi, sauf que la loi nous promet, on va dire, un cadre. Sauf que si ce cadre-là n'est pas celui dont on a besoin réellement, on va vers du conflit.
L'argument des plateformes, c'est justement l'indépendance des travailleurs qui choisissent ce statut. Est-ce qu'avec votre combat et votre militantisme, vous ne bridez pas justement cette envie d'indépendance chez bon nombre de jeunes gens, parce qu'il y a un aspect générationnel que personne ne conteste sur ce point-ci?
Non, parce que l'indépendance, justement, la réelle indépendance, c'est celle qui va se construire justement maintenant via des négociations, via des mouvements sociaux. Là, ils reprennent leur indépendance en main. Le fait de savoir comment fonctionne un algorithme et de savoir comment le bloquer, il faut dire quelqu'un qui peut détruire quelque chose et mettre de cette chose. J'ai entendu ça dans un roman. Mais à partir du moment où on a compris comment fonctionnait l'algorithme et qu'on peut le faire bloquer, là, la plateforme ne peut plus rien faire d'autre que de donner corps à la revendication et donc de s'asseoir à une table.
Parce que c'est lui le boss, le vrai boss, c'est l'algorithme ?
Ça l'était de moins en moins. De moins en moins.
Justement par des actions dont vous parliez tout à l'heure.
Bien sûr, parce qu'on a su comment l'affaiblir. Donc à partir du moment où il se passe quelque chose à Dijon, une grève à Dijon fait bloquer l'algorithme, une grève à Angers fait bloquer l'algorithme, peut-être qu'ils vont améliorer l'algorithme pour qu'il soit moins fragile, mais plus ça va aller, plus il y aura d'actions comme ça. Donc l'algorithme ne s'en sortira jamais. Il faut que l'humain reprenne le pas et que donc des gens viennent s'asseoir à une table pour négocier.
Je n'ai jamais dit que les jeunes réclament de la précarité.
Elisabeth Borne, ministre des Transports.
Je suis en train de vous dire qu'ils réclament de l'autonomie.
Devant l'Assemblée nationale, le 7 juin dernier.
Il se trouve qu'il y a des jeunes, vous voyez, qui n'ont pas envie de respecter les tableaux de service, de se lever tous les matins pour venir au même endroit, au même moment. C'est pas leur modèle. Donc je pense qu'on peut le respecter et qu'il faut néanmoins essayer de travailler à des modèles dans lesquels ça ne les empêche pas d'accéder à l'emploi.
Nous sommes désormais avec Vincent Champin. Vous êtes cadre dirigeant dans une entreprise technologique et vous êtes président de l'Observatoire du long terme. Est-ce que cette économie des plateformes a des conséquences, des répercussions sur le marché de l'emploi ?
Alors évidemment, on voit apparaître des nouveaux emplois. Évidemment, la nature de ces nouveaux emplois est différente de l'emploi de salariés, CDI, que tout le monde a en tête. Néanmoins, au niveau mondial, si vous prenez l'ensemble des pays de l'OCDE, la part de l'emploi non salarié baisse. Donc vous n'avez pas d'accélération ou de destruction du modèle d'emploi. On a un certain nombre de problèmes et c'est vrai que l'ubérisation crée, accentue des inquiétudes, mais dire qu'aujourd'hui les problèmes sociaux viennent de ces plateformes, il n'y a aucun fait qui ne permet de l'étayer. Et penser que nos problèmes du futur seront liés aux plateformes, je ne pense pas non plus. Je pense que les problèmes du futur, ils vont être liés à une chose, c'est qu'on a des institutions, un modèle social. Un modèle social, c'est important. C'est le cœur d'une nation. Ce système-là, il regarde encore un peu, je trouve, vers l'arrière et pas assez vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? C'est un système dans lequel on peut changer de carrière plusieurs fois dans sa vie, dans lequel on a besoin d'être accompagné, notamment quand on est quelqu'un de plutôt modeste. Et l'ubérisation, j'allais dire, c'est une goutte dans une mer d'incohérences qui sont anciennes. Notre problème, il est là.
Comment parler du rôle de la nation dans ce contexte-là face à des applications, à des plateformes qui ont été développées au niveau global, mondial et qui importent de fait leur système ?
Alors c'est exactement le point. On a, quand vous ouvrez vos échanges, vous avez ce qu'on appelle des inégalités importées. C'est-à-dire qu'en important un produit, vous allez faire concurrence aux personnes qui faisaient le même produit et donc, d'une certaine façon, certains éléments du modèle social vont s'imposer à vous. Alors, premier point, je l'ai dit, en termes d'ampleur aujourd'hui, c'est pas l'essentiel du problème, il touche des gens qui étaient touchés par ces risques-là bien avant. Deuxième point, je pense que ces mêmes outils peuvent être utiles pour justement apporter des assurances et des services. Les plateformes peuvent être très utiles. Je vais prendre un exemple, l'aide à domicile. Vous avez des tas de personnes âgées, en situation de dépendance, dont les enfants sont trop éloignés pour pouvoir leur rendre service, vous avez des services de plateforme, par exemple une plateforme qui s'appelle Click and Care, qui permet de mettre en relation des aides à domicile qui cherchent un emploi, des personnes qui ont un besoin, et dans des conditions de souplesse et de coût suffisamment bonnes pour que effectivement vous puissiez employer ces personnes. Sans ces plateformes-là, c'est plus difficile de créer ces emplois et de satisfaire ce besoin qui est un besoin important et qui va aller en augmentant.
Et ça, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de propre à l'ubérisation de la société avec ce que vous décrivez. Des métiers qui disparaissent et des métiers qui apparaissent, ça a toujours, toujours existé.
Oui, en fait, chaque année, et cette année comme les autres, l'économie française, elle crée et elle détruit 14% de ses emplois. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui disparaissent, des entreprises qui ferment, ou qui cessent leur activité, ou qui évoluent, puis d'autres qui se développent. Ça veut dire que sur l'espace d'une génération, vous avez 15% des emplois qui vont changer. C'est significatif, mais chaque année, vous faites autant que ce qui va se passer en 25 ans.
Au regard des chiffres que vous avancez, il ne s'agit pas d'une révolution.
Tout à fait. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. L'emploi non salarié aux États-Unis, il baisse légèrement. Dans l'OCDE, il baisse légèrement. En France, il a plutôt un peu augmenté, mais c'est aussi lié au phénomène des auto-entrepreneurs. Et dans ce domaine-là, comme dans d'autres, je me méfie des révolutions. C'est-à-dire que penser qu'il y a un risque tellement énorme qu'il faut tout casser, je ne crois pas beaucoup. Je pense qu'au contraire, le vrai enjeu, c'est de recréer des mécanismes de sécurité. Et dans ce domaine-là, il est plus que temps d'accélérer les choses. La vraie question, c'est pourquoi on le fait pas, pourquoi on n'investit pas les moyens nécessaires.
Tout à l'heure, un camion de fruits et légumes est venu pour livrer ici, dans ce hangar de 500 mètres carrés, dans le 10e arrondissement de Paris. Ce sont les locaux de la société Olvo, société de coursiers à vélo, spécialisée dans le vélo cargo. En résumé, c'est un vélo qui est spécialement aménagé pour transporter des gros volumes.
Une photo quand tu livres. Ouais. Et nous, ça nous permet justement de regarder s'il y a un souci.
D'accord. Olvo est une société qui a été créée par d'anciens coursiers qui travaillaient par le passé pour des plateformes de livraison repas, dont Deliveroo. Ils travaillaient donc à la tâche. Ils ont quitté ce système pour créer cette société qui emploie aujourd'hui 18 personnes, toutes en CDI.
Je m'appelle Leroy Lévy, j'ai 27 ans et je suis entrepreneur, cofondateur d'Olvo.
Est-ce que vous avez créé Olvo comme une réponse, on va dire, plus humaine à des conditions de travail qui ne l'étaient pas par le passé avec Deliveroo? Est-ce qu'il faut voir ça comme ça?
C'est un peu ce que nous a inspiré Deliveroo. C'est que l'humain, on a voulu remettre la société autour de l'humain. Et c'est pour ça qu'on est une coopérative aussi. Donc les salariés sont aussi associés. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. On y trouve un but, en fait.
Un but et de l'humanité, ce qui n'était pas le cas avant?
C'est ça. C'est un peu le contre-pied de l'ubérisation. C'est plus de responsabilité, plus de partage et plus de fierté aussi. On est salarié, il faut arriver à une heure précise, on a des fonctions, on est un peu encadré. C'est un petit peu différent de l'ubérisation. Mais au final, on a quand même la liberté de s'exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les mardis soirs, on a une réunion, on fait remonter les problèmes. S'il y a un problème, on corrige et on discute. Voilà.
Est-ce que sans cette expérience plutôt malheureuse, si j'en juge votre commentaire, sans cette expérience de l'ubérisation, vous auriez eu l'idée d'une coopérative? Ou est-ce que c'est l'ubérisation et ses travers qui vous a conduit à cette notion-là du travail et de l'humanité dans le travail?
Forcément, il y a une réflexion qui est née justement de de sentiment d'impuissance qu'on avait par rapport aux plateformes et justement à cette déshumanisation que les plateformes amenaient. Et c'est peut-être grâce à ça, entre guillemets, que Olvo est né.
Un mal pour un bien, comme on dit?
Peut-être.
C'est un message qu'il faut faire passer aussi aux clients en disant « sachez ce qui se passe quand vous faites livrer quelque chose chez vous ».
Je pense que les clients en général, et notamment avec toute la vague de la food tech et des Deliveroo, Uber Eats, ils ont perdu la notion de la livraison, que c'est quelque chose qui prend du temps, qui coûte de l'argent. On aimerait bien nous faire croire qu'une course, ça coûte 2,50€ n'importe quand, une demi-heure dans Paris, mais c'est pas le cas. Les coûts logistiques sont bien plus élevés et souvent c'est compensé d'ailleurs par les plateformes vers les coursiers. Le prix d'une course pour un coursier, c'est entre 4 et 7 euros maximum, en fonction de la distance. Ça a de la valeur, quoi.
Pourquoi, selon vous, on a perdu cette valeur-là?
Sur un vélo ou même sur un scooter ou une voiture, c'est juste que le métier s'est précarisé de plus en plus. Il y a beaucoup de chômage en France. Les gens sont prêts à accepter des conditions de moins en moins favorables. Et du coup, dévalorisation du métier. D'ailleurs, perte de qualité en général. Je pense tous les clients de la foodtech, par exemple, pourront constater que la qualité de service est en berne. Depuis que les recrutements ont été sauvage, entre guillemets.
Non, non, ton vélo est là. On a tout chargé, mais c'est un peu. Tu peux peut-être refaire si tu veux un peu.
Ok, ça marche. Good morning. So I'm Stanis. I'm the managing director of Citybox, and Citybox is a platform that it's coming to revolutionize the way that parcels are delivered.
Nous avons une mise à jour qui est en train de se faire. Un redémarrage technical issues.
Les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire issues du XXe siècle, en ont fini d'observer l'ubérisation. Elles tentent désormais de se faire une place dans le nouveau monde. La Poste, par exemple, a racheté en 2017 la société Stuart Delivery. C'est une société qui met en liaison des commerces avec des livreurs à vélo. C'est au salon Vivatech, le plus grand salon européen consacré aux nouvelles technologies, que nous rencontrons un responsable de La Poste.
Bonjour, je suis Nizar Daman, directeur général adjoint de La Poste Services for Equity, un nouveau fonds d'innovation lancé par le groupe La Poste.
Est-ce que c'est le rôle d'une société dont les capitaux ne viennent que du secteur public d'investir dans des sociétés comme celle-ci ?
Bien sûr, comme toutes les sociétés, nous devons innover. Et si on a une proposition de valeur qui est innovante et qui fait sens dans notre copie stratégique, il est important pour nous de saisir cette opportunité.
Mais le modèle est décrié quand même. Ce sont des coursiers payés à la tâche, payés au colis.
Les conditions des coursiers de Stuart sont les meilleures et on les a énormément améliorées avant même qu'on ait toutes les polémiques sur le sujet de requalification. Donc on avait déjà anticipé ces sujets-là en leur offrant des conditions de travail qui étaient aux meilleurs standards du groupe.
En quoi sont-elles meilleures que les autres coursiers à vélo ?
Ils ont des couvertures sociales. Il y a tout un paquet de services qui n'étaient pas obligatoires qu'on a mis en place pour améliorer leurs conditions de travail.
Pour dire les choses assez franchement, est-ce qu'au final, le but, c'est pas de faire des économies sur cette branche qu'on appelle branche courrier-colis de La Poste ? C'est
bien
ça le but ?
Bien sûr que non, parce qu'en fait, on est dans une logique de développement et de conquête et de développement de chiffre d'affaires. Donc ça passe par du développement et une volonté de conquête et d'investissement.
Donc, ça représente quoi cette branche, par exemple, dans les activités de La Poste ?
Aujourd'hui, ça représente la moitié du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Donc c'est encore un élément clé de moteur de la croissance du groupe.
Et en termes d'effectifs ?
En termes d'effectifs, je ne sais pas le nombre exact. Je peux me renseigner. Je ne sais pas exactement le nombre. J'ai peur de dire une bêtise.
150 000 personnes travaillent pour la branche dédiée aux courriers et aux colis sur les 250 000 agents de La Poste. Jean-Daniel Zamor, vous êtes précisément l'un des livreurs pour cette société Stuart, donc rachetée par La Poste en 2017. Est-ce que La Poste nous a dit vrai ?
Alors, j'ai connu Stuart avant le rachat. Du coup, j'ai pu voir la différence. La Poste n'a aidé en rien. Enfin, il ne s'est rien passé de bien depuis La Poste. Et ça a même été de pire en pire. Tant au niveau des injonctions qui étaient de plus en plus pressantes, que aussi dans cette pression à la vitesse, même pour valider la signature d'une course. On n'a que 15 minutes. Ils se targuent de nous avoir offert une couverture meilleure que les autres plateformes. Mais il faut savoir que c'est vraiment ridicule comparé à ce qu'un salarié toucherait avec la sécurité sociale.
Très concrètement, c'est quel type de course, quelle distance, longue, courte ?
C'est des courses qui varient, mais il y a parfois et de plus en plus des courses pour des centres commerciaux comme Carrefour ou Monoprix avec des poids qui parfois excèdent les 15 kilos, enfin, parce qu'on n'a pas de quoi se peser, donc on peut nous faire croire que c'est moins de 12 alors que c'est bien plus, et sur des distances très très longues.
Moins de 12, vous n'avez pas le droit de refuser ?
À moins de 12 kilos, on n'a pas le droit de refuser, non.
Sur votre dos, hein, vous n'avez qu'un sac à dos.
Sur notre dos, on n'a pas le droit de refuser. Et ça, c'est très problématique, sachant que La Poste, c'est l'État qui est actionnaire. Et c'est très embêtant de voir que l'État se fait littéralement d'argent sur notre dos, pour le coup. Sur le dos de notre jeunesse et qu'il brise son dos. Parce que les courses Monoprix ou les courses Carrefour, on les livre souvent pour des personnes âgées. On les pour aider les personnes âgées, il n'y a pas de souci. Mais à quoi notre dos ressemblera à l'orage, en fait? C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'on atteindra l'orage, en fait, avec des telles conditions? Il faut qu'on puisse avoir le matériel nécessaire pour porter autant et qu'il y ait le nombre de livreurs nécessaires pour porter des courses aussi lourdes et que le client paye le prix nécessaire aussi.
La Poste se défend en disant que c'est une offre complètement complémentaire de son offre originelle et qu'il fallait donc mettre un pied dans ce système. Quel est l'intérêt de La Poste, selon vous?
Pour nous, l'intérêt de La Poste, c'est aussi de participer un peu à cette déconstruction du modèle social et quitter de plus en plus le salariat pour avoir des travailleurs beaucoup moins chers que ceux qu'ils ont aujourd'hui.
Stuart, cela dit, la dernière plateforme a payé à l'heure ses coursiers. Les autres sont à la course, à la tâche. Est-ce que c'est quand même pas un bénéfice incontestable quand même?
Alors, Stuart était la dernière plateforme à payer à l'heure, sauf que Stuart, depuis que la Poste est arrivée, entraîne de plus en plus de travailleurs à se connecter quand ils le veulent, certes, mais la condition, c'est qu'ils soient payés seulement à la course.
Si ces coursiers à vélo et rechargeurs de trottinettes sont les nouveaux visages de la précarité, il existe une forme de travail liée à Internet encore plus précaire. C'est le micro-travail. Il consiste par exemple à répondre à des sondages en ligne ou à liker des pages Facebook par milliers. Ces tâches répétitives ont pour but d'améliorer les algorithmes et donc de perfectionner l'intelligence artificielle. D'après la première étude menée en France sur le sujet, il y a dans notre pays 260 000 micro-travailleurs, dont 15 000 sont très actifs. Ces travailleurs du clic ne bénéficient d'aucune protection. Ils sont encore plus invisibles que les travailleurs ubérisés, car ils sont isolés chez eux.
Bonjour.
Oh, bonjour,
Madame Tubaro.
Oui, c'est
bonjour.
Moi.
Bonjour, je suis Vanessa Descoureaux de France Inter.
Paola Tubaro est chercheuse au CNRS.
On va se mettre autour de ça.
Oui.
Super, on sera très bien.
Elle a co-dirigé cette enquête.
France Inter, Interception.
Dans l'enquête que vous avez coordonnée, ce qu'il ressort, c'est que ce sont majoritairement, en tout cas en France, des femmes qui pratiquent le micro-travail. Et l'un des faits les plus marquants, c'est que majoritairement, à 70%, un peu plus de 70%, ce sont des gens qui travaillent à temps plein. Et pourtant, ils ont besoin d'argent gagné sur leur temps libre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les micro-travailleurs en France, ce sont largement des personnes qui ont besoin d'un complément de revenu. Ils travaillent peut-être à temps plein, mais ce n'est pas suffisant. C'est souvent des compléments pour des petits extras des fois, mais des fois c'est aussi pour payer les impôts ou pour repayer une dette. Le micro-travail, il paye pas beaucoup, mais il répond à un besoin d'argent additionnel. Et puis il y a tout l'univers des femmes qui micro-travaillent entre des tâches domestiques et des tâches de travail. Les femmes sont plus nombreuses à avoir un emploi à temps partiel. Et donc, en fait, le micro-travail, pour elles, ça fait une sorte de troisième journée de travail dédiée aux tâches sur son ordinateur dans les pauses entre une activité et l'autre.
Est-ce que le micro-travailleur sait toujours pour quelle raison il doit accomplir la tâche? Est-ce qu'il sait toujours pour qui il travaille?
Non, il ne le sait pas. C'est-à-dire que c'est complètement à la discrétion des clients. Donc, certains clients donnent ces informations, donc expliquent que je suis un tel, j'ai besoin de développer une application pour la nutrition, on va dire, et donc j'ai besoin que vous fassiez ça, ça et ça, voici les consignes. Des fois, cette information est beaucoup plus fragmentaire et du coup, le travailleur n'est pas forcément au courant des objectifs de l'identité du client.
Est-ce que ça les trouble parfois?
Oui, ça les trouble parce que nous, quand nous, êtres humains, quand nous travaillons, nous voulons donner un sens à notre activité. Et le fait de faire quelque chose dont on ne voit pas le but, ça peut nous poser problème. On a eu le cas d'une personne, justement, qui nous racontait d'avoir dû entourer des tomates sur des photos des salades et qui voyait pas du tout à quoi ça servait. Elle disait, tout le monde sait reconnaître une tomate. Et donc, évidemment, elle pensait pas qu'elle était en train de la prendre à un ordinateur, qui lui, il sait pas. Il aurait suffi de quelques mots pour lui expliquer, pour la rassurer. Donc, parfois, vraiment, des petits détails en plus peuvent aider les gens à y trouver leur compte beaucoup plus que ce n'est le cas maintenant.
Est-ce que vous avez senti, du côté des micro-travailleurs, une certaine aisance avec ce métier, ou est-ce qu'au contraire, c'est des choses qui sont assez tues, on va pas trop le dire, même à l'entourage? Comment vous avez perçu ça?
Ils en parlent très peu autour d'eux. Des fois, s'ils savent qui est le client final, Et si c'est une grande entreprise connue comme Google ou Microsoft, ils disent « je travaille pour Google, je travaille pour Microsoft à distance ». Des fois, ils sont plus évasifs et trouvent d'autres formes de communiquer cela parce que ce n'est pas forcément clair pour eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert?
Au rythme où va notre monde numérique tout autour de nous, est-ce que ce genre de travail, ce micro-travail, a vocation à prospérer?
Il y a du micro-travail qui se développe en France, qui n'a pas vocation à disparaître parce que il faut des produits pour lesquels il faut des données en français et en français de France. Imaginez préparer des enregistrements pour des assistants vocaux, lui apprendre à demander la météo, par exemple. Il faut que l'assistant vocal puisse comprendre tous les accents des clients éventuels. Donc, il faut quelqu'un de Marseille, quelqu'un de Lille, quelqu'un de, un peu partout. Donc, ça n'a pas vocation à disparaître en France. En même temps, il y a de l'externalisation qui est très importante vers des pays francophones où le coût de la vie et le coût du travail est plus faible. Il y a tout un système d'externalisation qui va vers notamment l'Afrique, les pays francophones, autres, où on a également de la main-d'œuvre qui fait partie de l'écosystème.
Nous nous rendons désormais dans une petite ville du sud-ouest de la France pour rencontrer Élodie. C'est une mère de famille qui a plusieurs activités professionnelles. Elle est traductrice, elle est correctrice et elle est micro-travailleuse 20 heures par semaine pour une plateforme anglo-saxonne. Bonjour.
Ça va bien?
Bien et vous?
Ça va.
Je m'appelle Élodie, j'ai 42 ans et ça fait 4 ans que je fais du micro-travail.
Pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas tout dire des tâches qui vous incombent et qui vous sont demandées, mais qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, on peut en dire que je travaille sur mon ordinateur 20 heures par semaine et que durant ces 20 heures, ce ne sont qu'une suite de micro-tâches qui arrivent sur mon écran, auxquelles je dois répondre dans un délai imparti. Tout ça, en effet, est là pour renforcer l'intelligence artificielle.
Pour rendre nos ordinateurs et notre vie sur l'ordinateur plus facile.
Oui, tout à fait. Plus plaisante, plus rapide aussi pour l'utilisateur.
Est-ce que c'est bien payé?
Alors, je suis payée 15 euros de l'heure, donc franchement, je trouve ça assez correct.
C'est plus que le SMIC horaire.
C'est donc plus que le SMIC horaire, tout à fait.
Quel est le plus gros hic devant cette forme de travail?
Le point le plus négatif dans ce travail, c'est le manque de perspective d'évolution. Donc il faut avoir, je pense, pour entre guillemets tenir d'autres choses à côté.
Ce qui est votre cas?
Voilà, ce qui est mon cas. J'ai déjà d'autres contrats en termes de traduction, de correction, en anglais, en français. Donc c'est pour ça aussi que je me garde ce travail-là particulier, parce que ça m'assure quand même 20 heures par semaine et qu'on sait que trouver des clients dans d'autres secteurs, j'en ai, mais pour l'instant, je garde ce travail-là sous le coude.
Qu'est-ce qui vous fait rester malgré tout dans cette forme de travail?
La flexibilité totale de mes horaires, donc de pouvoir continuer à m'occuper de mes enfants comme je le souhaite et de pouvoir travailler donc éventuellement le soir si j'ai pas pu dans la journée pour différentes raisons. Légalement, le fait de pouvoir prendre mon ordinateur sous le bras et travailler d'ailleurs, donc de pouvoir bouger. Après, sur le travail en lui-même, le fait de travailler en anglais, ce qui me permet moi de renforcer mon anglais. Et également de voir une variété de choses assez importantes, ce qui est pour moi, parce que je suis assez curieuse, toujours assez motivante.
Pour vous, c'est un complément de vie ou c'est un élément déterminant de l'argent pour faire tourner le foyer?
Aujourd'hui, c'est un élément déterminant. Ça ne l'était pas il y a 4 ans, mais aujourd'hui, ma vie personnelle a évolué, et donc aujourd'hui, c'est un élément déterminant.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens, ils ne doivent pas manquer autour de vous, comme autour de nous tous, qui peuvent avoir un regard un peu dédaigneux par rapport à ces nouvelles formes de travail, en disant « Ah, c'est des tâches, c'est quand même pas sorcier ». Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur réponds que déjà, il n'y a pas de sous-métier, que la micro-tâche n'est pas forcément rébarbative, qu'elle peut être aussi intéressante, que ce n'est pas forcément que cliquer Moi, je dois aussi faire des commentaires. On ne sait pas forcément la finalité réelle des choses parce qu'on est là pour renforcer une intelligence artificielle, mais il y a aussi toute une partie de commentaires et d'apporter quelque chose de personnel. Donc, ça reste quand même assez intéressant.
Vous avez un contrat, une forme de contrat avec la plateforme ou quel est le lien de travail entre la plateforme et vous ?
Alors, je n'ai pas de contrat. J'ai signé au départ des papiers, entre autres, de confidentialité. Mais il n'y a pas d'obligation, ni moi envers eux, ni eux envers moi.
Ils peuvent rompre à tout moment ? Vous pouvez partir à tout moment ?
Tout à fait. Un petit peu comme sur le modèle américain.
Tout à l'heure, vous nous racontiez une journée type, on va dire, comme beaucoup d'indépendants qui pouvaient se terminer en début de soirée à rallumer l'ordinateur. C'est une troisième journée de travail quand on allume l'ordinateur en début de soirée ?
Alors pour moi, c'est pas une troisième journée de travail, parce que si je rallume l'ordinateur en début de soirée, ça veut dire que dans la journée, peut-être je suis allée par exemple au cinéma avec mes enfants, ou j'ai fait d'autres activités pour moi, je suis partie faire du sport, ou me balader avec mon chien. Donc je sais que le soir, je vais me reconnecter, mais que j'ai pu profiter de ce moment dans la journée sympathique. C'est tout à fait la flexibilité que je recherche.
Quand on a travaillé pendant 6 jours entiers, on est heureux de sortir pour faire une bonne partie de plaisir.
Dans les prochains jours, l'Assemblée nationale examinera en seconde lecture le projet de loi d'orientation des mobilités. Le texte prévoit de nouveaux droits pour ces travailleurs du numérique, notamment le droit de se déconnecter sans être sanctionné et le droit d'avoir une rémunération décente. Mais le projet de loi n'instaure pas de tarification minimale, contrairement aux souhaits des organisations syndicales. Les nouveaux boulots 2.0, c'était un reportage de Vanessa Descoureau, réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Abbat. À la semaine prochaine.
Et merci Géraldine Allot pour ce reportage que vous pouvez retrouver à la réécouter au podcast sur le site de France Inter, www.franceinter.fr. Vous cliquez sur Programme puis sur Interception. La semaine prochaine, dans Interception, Géraldine Allot vous propose un nouveau reportage de Vanessa Descoureau sur l'inquiétante progression de la prostitution des adolescentes. Au programme de votre dimanche sur France Inter, on va déguster le raisin. Dès 11h, François-Régis Gaudry reçoit le président de l'AOP nationale raisin de table et arboriculteur dans le Vaucluse, René Reynard, ainsi que l'autrice de livres de recettes, Keda Black. Certaines de ces recettes sont déjà d'ailleurs présentes sur le site de France Inter. Et puis tout de suite après, à midi, Ali Badou recevra Yannick Jadot pour questions politiques. Et puis notez bien qu'à partir de ce dimanche, vous avez désormais rendez-vous à 13h30 avec Denis Chessou pour CO2 Mon Amour. Et dans quelques instants, c'est Remède à la mélancolie avec Eva Bester.